Soft Power, l'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, ses expressions ou ses tendances. Et ce soir justement, on évoque une tendance, les Mathmen, avec Matt Scardunaire, cofondateur de l'agence publicitaire 55. Mathmen, comment on pourrait définir cette évolution qui est au fond celle du data et du marketing, et notamment des agences de data marketing, Matt Scardunaire?
Je pense que les Mathmen s'opposent aux Mad Men qui ont été dans
grande figure de la pub.
Ouais, brillamment représenté dans cette série très connue. Ça représente en fait la façon de faire de la publicité
des années 50, des années 60.
Avenue Madison, à New York, les années 60-70, autour d'un verre de whisky, en fumant quelques cigarettes et surtout en débattant de concepts, d'idées pour faire du marketing. Ça reste toujours, mais il y a une chose nouvelle qui vient de se présenter, enfin qui se présente depuis plusieurs années, c'est l'arrivée de la technologie dans le marketing, parce que Internet est partout, et Internet, on le sait, bouleverse tous les usages en termes de commerce, de divertissement, d'éducation, d'information. Et il y a le mobile qui est là également, qui fait qu'on accède à Internet partout, tout le temps. Et donc, le marketing aujourd'hui, ça va s'appuyer sur ces deux gros phénomènes pour également être plus efficace, plus rapide, moins coûteux, et en se basant également sur la récupération de données. Et donc ces données, elles ont besoin d'être analysées, elles ont besoin d'être comprises. Les données, c'est celles qu'on récupère sur un smartphone, sur un écran d'ordinateur, sur un navigateur. Et il y en a tellement qu'aujourd'hui, il faut des mathématiciens pour les analyser et pour les comprendre et pour aider les gens qui font du marketing et les madmen de l'époque à en fait adresser des messages qui sont peut-être de meilleure qualité, qu'on va tester avant pour savoir s'ils vont marcher.
On va mesurer après.
Voilà. Et en fait, donc, ça consiste à mélanger en quelque sorte le cerveau gauche et le cerveau droit, c'est-à-dire le cerveau créatif et le cerveau un petit peu analytique, et à rajouter une dimension plus, ce qu'on appelle en anglais « data-driven », c'est-à-dire dirigé par les données, c'est-à-dire prendre des décisions en fait qui sont fondées non pas sur des discussions ou des confrontations d'opinions, mais plutôt sur des calculs et des ratios et des analyses.
Alors dans tout ce que vous venez de dire, Matt Scardunaire, il y a deux étapes. Il y a d'abord l'étape de récupérer les données, donc on appelle ça plusieurs termes, il y a des agences spécialisées, et ensuite il y a l'interprétation. Donc comment est-ce que vous vous situez, une agence comme la vôtre, 55, quels sont ces métiers qui apparaissent et qui fait quoi dans ce type d'agence?
Alors effectivement, il y a des métiers complètement nouveaux. Moi, tous les métiers qu'il y a chez 55, quand j'étais étudiant, ils n'existaient pas encore. Donc il y a ce qu'on appelle, donc j'en ai parlé tout à l'heure, des data scientists, donc des scientifiques de la donnée, des mathématiciens. Et d'ailleurs, on ne devrait pas dire madmen, on devrait dire aussi madwoman, puisqu'en fait, il y a une bonne moitié de ces personnes chez nous qui sont des femmes, et environ 45% de l'effectif qui sont des femmes. Donc nous, on se situe en fait sur les deux métiers, c'est-à-dire la récupération et ensuite l'analyse, c'est-à-dire comment donner du sens à cette complexité.
Alors la récupération, pour commencer par elle, c'est du data mining, on appelle ça notamment. D'autres oui. choses, et on va chercher les données. Ça se passe comment? Que fait une agence dans ce secteur-là?
Alors, grosso modo, on va utiliser des logiciels qui existent et qui sont en général édités par de gros éditeurs de logiciels, comme d'ailleurs peu de gens savent, mais Google en fait partie, ou des sociétés comme Adobe ou d'autres. Ces sociétés sont spécialisées en fait dans le fait de pouvoir tracer en fait la navigation, récupérer grâce à ce qu'on appelle les cookies. Les cookies, ce sont les petits mouchards qu'il y a sur le navigateur et qui permettent en fait d'enregistrer toutes les pages qu'on visite, à quel moment on le fait, etc. Et donc ces logiciels, en fait, on s'est spécialisé, nous, dans le fait de les installer sur les sites de nos clients, de manière à les aider, à définir quelles données ils veulent, et puis ensuite à les mettre en forme et
à les interpréter. Alors ça, c'est le deuxième partie du métier. Avoir des données, c'est bien, mais c'est souvent des millions, voire des milliards de données. Il faut les faire parler.
Oui. Donc on parle de big data, effectivement. Ces données peuvent être dans des quantités astronomiques. Et là, donc, on en arrive effectivement à ces nouveaux métiers et à cette puissance en fait que confère au marketing les algorithmes et le calcul, tout simplement. Et c'est vrai qu'on arrive maintenant. Donc les gros bénéfices qu'on peut tirer de cette récupération de données, cette analyse, c'est le ciblage, donc un ciblage qui est plus précis, une personnalisation des contenus, c'est-à-dire le fait de proposer des contenus dont on sait, de par l'historique de navigation des gens à qui on les propose, qu'ils vont être plus entre guillemets, satisfaisant, plus engageant. C'est également le fait d'adapter, de doser également, notamment la publicité, hein, de ne pas proposer trop de publicité, comme il y a 15 ans où on proposait des pages qui étaient remplies de bannières qui clignotaient dans tous les sens. Là, on va être dans des publicités qui sont plus affines, entre guillemets, qui sont moins intrusives. Ça va être le fait d'enrichir également la connaissance des gens qu'on rencontre sur ces applications, sur ces sites. Et ça va être le fait de mesurer et de nourrir en fait les algorithmes avec des nouvelles données qui permettent d'être encore plus pertinents après.
Donc on peut dire que les data changent fondamentalement le marketing et la publicité presque d'une manière inexorable, définitive.
Alors on le sait peut-être peu, mais en fait il y a d'une part il y a presque 50% des investissements publicitaires qui se font sur des supports digitaux ou avec des supports publicitaires qui sont digitaux, donc des mots-clés, des bannières, des vidéos. Ça, c'est le premier phénomène. Et dans ces 50%, je crois qu'aux États-Unis, d'ailleurs, je crois que c'est cette année que le marché publicitaire devient majoritairement sur Internet par opposition à la télévision qui était chère à nos Mad Men. Et on sait moins également que dans cette publicité digitale, il y en a une grosse proportion qui est ce qu'on appelle programmatique, c'est-à-dire qui est le fait de placer des publicités de manière algorithmique sur des places de marché, un petit peu comme en finance, on est capable de faire du trading avec des algorithmes et des machines.
Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express.
Alors l'autre évolution qu'on voit un petit peu poindre, c'est qu'aujourd'hui, ces publicités ciblées sont généralement sur téléphone ou sur ordinateur. Et là, on voit quand même que les grandes chaînes de télévision commencent à se dire pourquoi ne pas insérer des spots publicitaires qui seraient personnalisés dans le flux. Et là, on voit qu'il y a des tentatives qui commencent à se faire un peu aux États-Unis, un peu en France. Est-ce que ça, c'est la prochaine évolution? C'est-à-dire, je regarde le 20h de TF1 et après le 20h, on verra tous un spot publicitaire après, mais ça ne sera pas le même. En fait, il sera ciblé en fonction de la personne qui regarde.
C'est une évolution prévisible de la publicité à la télévision, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est capable, à travers les box, d'avoir une mesure précise de la consommation. Alors, ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est qui est derrière l'écran. Et donc, ça, c'est un petit peu... Ça rend,
au sein de la famille, par exemple.
Voilà, au sein de la famille, ça peut être plusieurs personnes à la fois. Mais néanmoins, on peut, grâce à des calculs effectivement algorithmiques, proposer des publicités qui sont censément plus ciblées, plus localisées également, dans une ville, dans une région, etc. Et puis surtout, on peut faire des interactions entre les écrans publicitaires classiques, donc les spots qu'on voit à la télé, et les gens qui, en général, sont en usage mobile également en regardant la télévision. Et ça, c'est une évolution qui est très spectaculaire, où on fait ce qu'on appelle du reciblage second écran, c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer un message à quelqu'un qui regarde son mobile parce qu'on sait ou on suppose qu'il est en train de regarder la télévision. Donc ça, c'est vraiment des évolutions qui sont spectaculaires et qui rendent effectivement la publicité complètement différente aujourd'hui. On sort en quelque sorte de l'ère... de l'écran, enfin du fameux écran publicitaire avant le journal de 20h ou avant le film du dimanche soir, pour entrer, que d'ailleurs on sacralisait pas mal et qu'on attendait avec une sorte d'impatience, puisqu'il y avait aussi du spectacle là-dedans, à des publicités qui sont, en théorie, plus adaptées à ce pourquoi le consommateur ou la personne est là, ce pourquoi elle est en train de consulter tel ou tel site. Et donc, c'est une révolution.
Révolution dans laquelle...
Qui est amenée par les algorithmes et par les nouveaux métiers.
Révolution, donc, on l'a dit, du Mad Men au Mad Men. Est-ce que ça veut dire que les technos prennent le pas sur les créatifs?
Alors, pas du tout. Au contraire, je pense que le vrai défi de cette évolution, enfin le vrai travail, je pense, des gens de publicité et de marketing, c'est de faire fonctionner les deux ensemble. De la même façon que toutes les études qui prétendent pouvoir classer les gens entre cerveau droit et cerveau gauche démontrent qu'en fait, on fonctionne toujours avec les deux et qu'on aura toujours besoin de cette confrontation entre du créatif et du rationnel, et que c'est finalement cette utilisation de la donnée est une opportunité immense pour améliorer ou pour faire fonctionner mieux toute cette partie créative qui est quand même un besoin fondamental du marketing et qui le restera toujours.
Emmanuel Paquette.
Alors vous l'évoquiez un petit peu, mais il y a un petit peu un ras-le-bol de la population face à ces publicités. On voit aujourd'hui que les logiciels de blocage de publicité sur Internet se répandent de plus en plus. On voit que la Commission européenne aujourd'hui oblige les sites Internet à dire qu'un petit mouchard s'installe sur le site Internet que vous visitez au moment où vous le visitez. Donc on voit bien que quand même, il y a une réaction de la société civile face à cette montée en puissance de la pub et notamment de son ciblage potentiel.
Oui, absolument. Donc la première réaction, en général, quand je parle de ce sujet-là, c'est qu'effectivement, les gens sont plutôt sursaturés de publicité, que même s'il est supposément plus ciblé, en fait, elle n'est pas forcément bien dosée. Et on est parfois dans des ce qu'on appelle, par exemple, du reciblage. On va voir 4 fois de suite une publicité pour un canapé parce qu'on a surfé il y a quelques jours sur un site qui vend de l'ameublement. Donc ça prouve quoi? Ça prouve, de mon point de vue, que ça prouve pas que ce système est défaillant, enfin, en tout cas qu'il n'est pas une forme d'amélioration du marketing, mais ça prouve tout simplement qu'il arrive, enfin, qu'on est à un stade de développement qui est très peu avancé et que finalement, d'ici 5-10 ans, on arrivera à un équilibrage qui fera que les algorithmes, justement, permettront de ne pas être dans l'intrusivité. Mais ça montre surtout une chose très importante de mon point de vue, c'est que il y a un manque de connaissance du public et un manque de transparence également des gens de marketing sur la façon dont ça fonctionne et qu'il faut vraiment que tout le monde se concentre dans les années qui viennent, dans les mois et les années qui viennent, sur un pacte entre guillemets entre les utilisateurs qui reçoivent ces publicités, les marques qui les proposent, de manière à ce que chacun sache dans quelles conditions sont collectées les données, donc qu'il y ait une transparence et notamment une réversibilité de la donnée que je donne, c'est-à-dire que je puisse éventuellement effacer mon compte et changer complètement mon historique de manière
avec à les cookies, etc. Voilà. Pour terminer, Mats Cardunner, je rappelle que vous êtes le cofondateur de 55, mais auparavant vous étiez directeur général de Google en France. 55 a été créé par 5 anciens de Google France. Ça veut dire que vous êtes forcément très Google, orienté Google dans vos activités. Vous connaissez bien leur technologie, etc. Et donc vous êtes une agence dédiée finalement pour une part à la connaissance de Google.
C'est plutôt qu'on a, grâce à Google, on a été dans une culture en fait de la donnée, parce que s'il y a bien une société qui est emblématique de l'utilisation des données, c'est Google. Donc on a appris en fait le pouvoir entre guillemets des algorithmes, le pouvoir de l'analytics. Donc cette discipline consiste à analyser et à prendre des décisions basées sur les faits plutôt que sur des avis. Donc on a eu cette culture là, et par contre on a bien compris également aujourd'hui que déjà il y a beaucoup d'acteurs, il n'y a pas que Google. Il y a énormément de lieux où on diffuse des publicités sur Internet. Et il y a une énorme complexité, il y a beaucoup de dynamisme et de croissance, il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent tout le temps. Et donc, on réfléchit plutôt à une façon d'être, on va dire, exhaustif dans les logiciels ou dans les partenaires qu'on a.
55, une agence de data marketing qui a été rachetée récemment par You and Mr. Jones, en l'occurrence la société de David Jones, ancien président d'Avas, donc qui est rentré à plus de 55%, c'est ça, au capital de 55.
Oui, c'est de l'humour de financier.
Voilà. Donc David Jones et Mats Cardunner s'allient dans la data. Merci infiniment Mats Cardunner. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power. Vous pouvez également vous abonner au podcast Soft Power sur le site franceculture.fr. Et pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, consultez notre page alphabetnumérique.com.